France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de notre série de l'été, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, avec aujourd'hui la complicité de Martine Moni, Céline Parfenoff et Jean Frédérix. Aujourd'hui, Camille Saint-Saëns et l'orientalisme, une émission que nous ouvrons avec le fameux aquarium du Carnaval des animaux, devenu le générique du Festival de Cannes, partition aquatique dont les chromatismes, les mélismes et pour tout dire les arabesques semblent évocateur de cet Orient aussi lointain que fantasmé, avec ici l'ensemble orchestral de Paris dirigé par Joseph Svensson, ainsi que Boris Berezovsky et Brigitte Engerer au piano. C'est la pianiste Annie Darko et le violoncelliste André Navarra que nous entendions ici dans l'une des mélodies du Japon, adaptée par Camille Saint-Saëns. C'était Petite colline de sable, Sunayarna, sur une gamme à 5 tons, une gamme pentatonique que nombre de compositeurs ont utilisée pour évoquer le Japon ou la Chine sans grand souci d'authenticité. Camille Saint-Saëns et l'orientalisme, voilà un thème qui semble évident, surtout à la lecture d'un livre paru en 2017 chez Actes Sud, Palazzetto Bruzzani. Camille Saint-Saëns, le compositeur globetrotter, 1857-1921, livre de Stéphane Le Teuret. 1857 étant le début des 179 voyages que le compositeur a mené jusqu'à sa mort dans 27 pays, de San Francisco à l'Extrême-Orient, en passant surtout par le Maghreb. Des voyages dont témoignent de nombreux objets que le collectionneur Saint-Saëns a rassemblés au musée de Dieppe, mais aussi dont témoignent certaines partitions qui faisaient écrire à Camille Saint-Saëns en 1902, dans une lettre à son éditeur Durand, « Je suis l'orientaliste de la musique ». Un compositeur qui célèbre en 1869 la rencontre des cultures à l'occasion du percement du canal de Suez dans une partition intitulée « Orient-Occident ». À l'Orient, la sensualité et à l'Occident, la rigueur symbolisée par une fugue.
Thank you.
L'orchestre philharmonique du Württemberg était dirigé par Ola Rodener dans « Orient et Occident » de Camille Saint-Saëns. En 1872, Saint-Saëns travaille pour la première fois avec le librettiste Louis Gallet, directeur de l'hôpital Lariboisière à Paris et librettiste dans ses heures perdues, qui écrira des textes non seulement pour des opéras de Saint-Saëns comme Étienne Marcel, Proserpine, Ascanio, Déjanire, mais aussi pour son grand concurrent lyrique Jules Massenet, avec le Cid par exemple. Ce premier opéra Louis Gallet-Camille Saint-Saëns, c'est La Princesse Jaune, créé un même soir de 1872 à l'Opéra Comique avec deux autres partitions dont Djamilé de Bizet, là encore sur un livret de Louis Gallet. La Princesse Jaune, c'est l'histoire d'un voyage immobile. L'action se déroule du début à la fin dans une maison hollandaise avec un cabinet de travail rempli d'objets japonais ou évocateurs de l'Empire du Soleil Levant. C'est l'atelier de Cornelis, le héros, amoureux d'un tableau représentant une femme japonaise. Il se trouve que Cornelis se drogue, non pas dans un coffee shop d'Amsterdam, mais avec de l'opium, d'où les visions délirantes et japonisantes évoquées dans cette scène proprement stupéfiante. Ah, quel nuage d'or s'ouvre devant mes yeux ! Entre alors Lena, la cousine de Cornelis, qu'il prend pour une douce geisha.
Les tentures de soi en iront tout. qu'ici.
Chanson que tu connais.
Cet innocent petit ouvrage fut accueilli avec l'hostilité la plus féroce. Voilà ce qu'écrit Camille Saint-Saëns au sujet de la princesse jaune, dont nous écoutions la scène japonisante de l'opium, agissant sur les sens de Cornelis, chanté ici par Carlo Alemano, avec Maria Costanza Nocentini, avec le chœur Cantemus et l'orchestre de la Suisse italienne, dirigé par Francis Trévis.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
La tonalité, qui a fondé l'harmonie moderne, agonise. C'en est fait de l'exclusivisme des deux modes majeurs et mineurs. Les modes antiques rentrent en scène, et à leur suite feront irruption dans l'art les modes de l'Orient, dont la variété est immense. Tout cela fournira de nouveaux éléments à la mélodie épuisée qui recommencera une nouvelle jeunesse bien autrement féconde. L'harmonie aussi se modifiera et le rythme, à peine exploité, se développera. De tout cela sortira un art nouveau. Voilà ce que Camille Saint-Saëns écrit en 1879 dans un texte cité dans un très bel ouvrage illustré, Saint-Saëns, un esprit libre, ouvrage publié cette année par la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra de Paris. Camille Saint-Saëns, 2 ans auparavant, en 1877, avait enfin pu présenter au public son opéra « Samson et Dalila ». Sur un livret d'inspiration biblique de Fernand Lemaire, Saint-Saëns avait commencé en 1868 la composition de cet opéra, auquel nous consacrerons une émission entière. Il l'avait présenté à de nombreuses personnalités de la musique, comme Pauline Viardot ou Anton Rubinstein, mais les portes des opéras français sont longtemps restées fermées à Samson et Dalila. Et c'est en Allemagne, à Weimar, grâce à son ami Franz Liszt, que cet opéra français sera créé, et encore en allemand. Et il faudra attendre 1890, donc plus de 20 ans après le début de la composition, pour que cette partition s'impose à Paris et ailleurs. Avec notamment cette orientalisante bacchanale du troisième acte, qui s'imposera définitivement au concert. Une bacchanale qui s'inspirerait de la tushia, donc l'introduction d'un makam, système musical arabe, le makam zidane. Thank you. tout un vague sérail de plaintives sultanes débarque en babillant dans l'ombre des platanes, Saint-Saëns sourit. Voilà un extrait d'un poème de Joachim Gasquet, qui pensait peut-être à cette bacchanale de Samson et Dalila, ici jouée par l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim. Déploiement de secondes augmentées, cet intervalle musical facilement évocateur de l'Orient fantasmé qui avait fait son apparition dans les salles de concert en 1844 avec le désert de Félicien David, dont Camille Saint-Saëns est un héritier dans ses partitions orientalistes. Je citais tout à l'heure le livre de Stéphane Leteré, Camille Saint-Saëns, le compositeur globetrotteur, 1857-1921. Un livre dont le premier chapitre étudie le sens politique des voyages de Camille Saint-Saëns, le plus célèbre, le plus joué des musiciens français de son époque, représentant d'une culture classique française et qui doit contrecarrer ses concurrents allemands, italiens ou britanniques dans les colonies. Le deuxième chapitre s'appelle, comme notre émission du jour, l'orientalisme. Et puis le troisième chapitre, qui fait 40 pages, c'est l'Algérie de Monsieur Saint-Saëns. Clichés et nuances du colonialisme. Saint-Saëns souffrait des poumons et son médecin lui avait recommandé la chaleur sèche d'Algérie. Première fois qu'il pose le pied à Alger, c'est en 1873, il a 38 ans. Et la dernière fois, ce sera en 1921. Il meurt à Alger le 16 décembre 1921. Entre-temps, ce seront 19 séjours algériens, algérois qu'il fera, plaçant ce pays en tête de tous les autres. Saint-Saëns cherchait l'anonymat pendant ses voyages. Il avait voyagé souvent sous un nom d'emprunt et on a parfois parlé à son sujet de tourisme sexuel, de pédérastie, voire de pédophilie. Il n'y a là-dessus aucune preuve, aucun témoignage direct. Camille Saint-Saëns s'est marié, a eu 2 enfants, il a courtisé plusieurs femmes, dont la compositrice Augusta Holmès. Il avait un domestique à son service. Voilà ce que nous savons avec certitude. Le reste n'est que conjecture et hypothèse, voire même calomnie facile, totalement invérifiable et qui du reste nous éloigne de la musique. Une musique orientalisante, certes, mais nullement ethnologique. C'est une couleur locale, plus ou moins authentique, que cherche Saint-Saëns, comme dans cette suite algérienne de 1880, dont voici le deuxième mouvement, Rhapsodie mauresque, par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par David Robertson. Thank you. part le soir et le lendemain matin, on s'éveille au milieu des oliviers dont les troncs capricieux et le feuillage argenté réjouissent le regard. Vous montez sur un beau navire. 24 heures après, vous débarquez à Alger. Et c'est le soleil, la verdure, les fleurs, la vie. C'est une véritable déclaration d'amour à la ville blanche qu'écrivait ainsi Camille Saint-Saëns dans son livre « L'école buissonnière ». Et c'est l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par David Robertson, qui jouait ainsi la rhapsodie mauresque, extraite de cette suite algérienne de Camille Saint-Saëns, composée en 1880. Camille Saint-Saëns contemplant pendant la composition les vagues depuis sa maison de Boulogne-sur-Mer. Comme quoi, il n'est pas besoin d'aller très loin pour s'enivrer de parfums exotiques. Camille Saint-Saëns soutient pleinement la politique d'expansion coloniale de la France, mais il déplore l'occidentalisation de ces sociétés extra-européennes, que ce soit au Japon ou en Algérie, où il s'élève par exemple publiquement contre la destruction de deux mosquées en vue de l'édification de grands boulevards de type parisien. Le vieux Saint-Saëns va même se désoler du premier Alger qu'il avait connu dans les années 1870-80. Même un mois avant sa mort, il écrit « C'est maintenant à Alger que j'aime le mieux vivre. Quel malheur qu'on y puisse transporter l'opéra. » Il parle de l'opéra de Paris. « Alors ce serait parfait pour moi. » Fin de citation. Mais si l'Algérie est sa destination favorite, elle n'est pas la seule. Et ses visites au Caire ou à Tunis lui inspireront une fantaisie symphonique intitulée « Africa », avec là encore quelques secondes augmentées, ici jouée par Jean-Philippe Collard au piano, avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres, dirigé par André Prévin.
Thank you.
La fantaisie pour piano et orchestre Africa est faite de thèmes africains recueillis ça et là pendant plusieurs années. On y trouve même l'air national de la Tunisie, les débris d'un concerto mort-né. Longtemps, ces matériaux ont erré dans ma mémoire sans qu'il me fût possible de les coordonner. Lorsqu'un jour, au Caire, où j'étais dans le plus strict incognito, ignoré de tout le monde, je fus pris de la fièvre et la composition s'élabora facilement. Par moments, cela confine à la rhapsodie hongroise. Ce n'est pas ma faute si les bohémiens de Hongrie sont venus d'Afrique. J'ai tâché de montrer de l'africain inédit. Vous verrez si j'y ai réussi. C'était donc Africa de Camille Saint-Saëns par Jean-Philippe Collard et l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres dirigé par André Prévin.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
J'ignore si Camille Saint-Saëns s'est laissé séduire en Orient par quelques paradis artificiels. En tout cas, on a entendu l'un de ses personnages, Cornelis, dans La Princesse Jaune, plongé dans les hallucinations de l'opium. Eh bien, il est encore question d'opium dans la dernière des Mélodies persanes, opus 26, que Camille Saint-Saëns écrit entre 1870 et 72 sur des poèmes signés Armand Renaud, poète parnassien, ami de Mallarmé et de Manet. La mélodie que nous allons entendre s'intitule « Le tournoiement songe d'opium », chantée par Stéphane Degout, dans cet opus 26 de Saint-Saëns dont Marie-Claire Beltrando-Pattier nous dit qu'il est très typé par les moyens musicaux, mais sans couleur locale excessive. Il ne cède pas à l'orientalisme. Quelques effets intéressants, comme ce tournoiement pianistique et narcotique, lui confèrent un charme certain qui d'ailleurs amena Saint-Saëns à retravailler cette œuvre pour en faire une cantate intitulée « Nuit persane ».
Part je séjourne sur la pointe du gros orteil. Je tourne à la feuille morte pareille. Comme à l'instant l'eau trépasse la terre, l'océan, l'espace. Devant mes yeux troublés tout passe. Je tente une même lueur. Ce mouvement circulaire, toujours je l'accélère, sans plaisir comme sans colère, frissonnant malgré ma sueur. Dans les antres où l'eau s'enfourne, sur les inaccessibles rangs, Je tourne, sans le moindre souci des chocs. Dans les forêts, sur les rivages, à travers les bêtes sauvages, et leurs émules en ravage, les soldats qui vont s'accompagner. Au milieu des marchés d'esclaves, des volcans pleins de lave, chez les Mongols et chez les Slaves, de tourner je ne cesse point. Soumis aux lois que rien n'ajourne, aux lois je suis l'astre en son vol. Je tourne, je tourne, je tourne, mes pieds ne touchent plus le sol. Je monte au firmament nocturne, devant la lune taciturne, devant Jupiter et Saturne, je passe avec un sifflement. Et je franchis le Capricorne, et je m'abîme au gouffre morne de la nuit complète et sans borne, où je tourne éternellement.
La pianiste Hélène Lucas accompagnait ici le baryton Stéphane Degout dans « Tournoiement, songe d'opium » de Camille Saint-Saëns sur un poème d'Armand Renaud qui conclut « Les nuits persanes » opus 26. L'exotisme de Saint-Saëns a eu une influence capitale sur tous les compositeurs jusqu'aux musiciens de cinéma du XXe siècle. Saint-Saëns n'a jamais franchi le pas de l'ethnomusicologie, alors qu'il se présente comme le parangon du style musical orientaliste de la grande période coloniale de l'Empire français. Voilà ce qu'écrit le musicologue et accessoirement ancien professeur de votre serviteur, Jean-Pierre Bartoli, une affirmation qu'on peut illustrer avec le Caprice arabe, l'opus 96 de Saint-Saëns, composé en 1894. Le Caprice arabe, c'est une partition pour deux pianos, certes pas ethnomusicologique, mais pour laquelle Saint-Saëns s'est quand même penché sur des rythmiques entendues au Maghreb. Partition ici jouée par Christian Ivaldi et Noël Lee, au sujet de laquelle Saint-Saëns parle à son éditeur Durand de documents arabes pris il y a longtemps, que je croyais perdus, que j'ai retrouvés, et je veux faire une petite Africa pour deux pianos. Cette partition a une qualité, c'est qu'elle diffère complètement de mes autres orientalités et de toutes celles qu'on connaît. Vous y trouverez des entrecroisements de rythmes qui pourront vous amuser un moment. Le milieu du morceau n'est pas facile, bigre. C'est pourtant pour ce milieu que le morceau est fait. Thank you. C'est en 1985 que Christian Ivaldi et Noël Lee avaient enregistré le Caprice arabe pour deux pianos de Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns qui, dans son autobiographie, l'école buissonnière, déplorait, je cite, « l'impossibilité funeste pour les Européens de comprendre d'autres civilisations que la leur ».
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Il a beaucoup été question d'Algérie dans cette émission et dans la biographie, dans l'œuvre de Saint-Saëns. Il faut maintenant aborder l'Égypte, du Caire à Alexandrie. Camille Saint-Saëns est accueilli comme un véritable chef d'État et même comme un ami par le Khedive, le responsable de cette Égypte gigantesque, le Khedive dont le frère Mohamed Ali Pacha écrit en 1903 « L'Égypte a eu dans le temps des hommes célèbres, mais depuis longtemps nous étions abandonnés. C'est juste qu'aujourd'hui nous rendions hommage à l'illustre maître qui a bien voulu venir admirer notre beau pays et surtout de se montrer. Je vous compte comme membre de la famille ». Fin de citation. Voilà une lettre adressée à Saint-Saëns en 1903 et qui donne une idée du statut du compositeur, non seulement en France, mais à travers le monde. Saint-Saëns est l'un des principaux représentants de la culture française en Égypte, offrant une concurrence culturelle à la domination politique britannique. Et la plus célèbre illustration de tout cela, c'est son cinquième et dernier concerto pour piano, surnommé l'Égyptien, partition composée à Louxor, à l'ombre du Sphinx, en 1895. Voilà ce qu'écrit Camille Saint-Saëns à ce sujet. C'est une façon de voyage en Orient, qui va même jusqu'en Extrême-Orient. Le passage en sol est un chant d'amour nubien que j'ai entendu chanter par les bateliers sur le Nil. Une partition ici interprétée par Sviatoslav Richter. Saint-Saëns nous impose la vision de l'Orient, mais d'un Orient enregistré par des yeux trop occidentaux, semble-t-il, pour en dégager autre chose que la notion superficielle des aspects immédiats. Voilà ce qu'écrivait Alfred Cortot au sujet de ce cinquième concerto, l'Égyptien. Et c'est Sviatoslav Richter que nous entendions ici avec l'Orchestre des Jeunes de Moscou, dirigé par Kirill Kondrachin, dans un extrait de ce concerto en fa majeur, opus 103 de Camille Saint-Saëns. Vous avez peut-être reconnu la voix de Nathalie Dessay, qui était ici accompagnée par l'Orchestre symphonique de Berlin, dirigé par Michael Schoenwandt, dans des vocalises orientalisantes, écrites par Saint-Saëns en Égypte en 1902, pour une musique de scène intitulée Parisatis, musique créée aux arènes de Béziers pour un gigantesque spectacle avec des centaines de musiciens et des milliers de spectateurs. Parisatis, d'après le roman de l'archéologue Jeanne Dieulafoy, histoire d'une reine persane du 5e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien justement, c'est avec la foi que nous allons conclure cette émission. Non pas la foi religieuse de Camille Saint-Saëns, qui n'en avait guère à la fin de sa vie, mais une partition de 1909 intitulée « La foi » Encore une musique de scène d'après Eugène Brieux. Saint-Saëns déclare à Gabriel Fauré « J'ai employé ici des gammes égyptiennes qui feront dire que j'ai voulu me mettre à la mode. Les extrêmes se touchent, l'antique et le moderne s'embrassent. »
Thank you.
Camille Saint-Saëns n'est pas un vulgaire amateur de bibelots. Il admire, sur les pierres brisées d'un temple, la perfection de la ciselure et la beauté de la matière. Voilà ce qu'écrivait Maurice Barrès en 1908 dans Mes Cahiers. Et c'est un extrait de La Foi, opus 130 de Camille Saint-Saëns, qu'on écoutait là avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Nous aurions pu entendre d'autres partitions orientalisantes de Saint-Saëns, comme Désir d'Orient ou encore Souvenir d'Ismaïlia, mais nous retrouverons quelques-uns de ces parfums capiteux la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Carnaval de Monsieur Saint-Saëns, consacré à Samson et Dalila.
À réécouter sur francemusique.fr.